l'info, pas dans une minute, mais tout de suite. Il est 5h à Paris, 6h à Bukavu. Et vous écoutez Radio France Internationale, le journal Martin Guez.
Chacun son rythme, Vincent Dublange, à tout à l'heure. Et bon réveil si vous nous rejoignez sur RFI. À la une de l'actualité internationale de ce samedi 15 février, le sommet de Munich sur la sécurité en Allemagne, marqué par cette rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le vice-président américain J.D. Vance, qui avait besoin de mettre les choses au clair après le coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine. J.D. Vance, qui a par ailleurs fait la leçon aux Européens, la démocratie et la liberté d'expression, selon Vance, pas vraiment du goût de l'Allemagne, vous l'entendrez. En Éthiopie, ouverture ce samedi du sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba, le président de la commission, Moussa Faki Mahamat, défend son bilan avant de passer la main. Nous serons à New York, où le maire démocrate Eric Adams se rapproche de l'administration Trump, un rapprochement très opportun pour régler ses ennuis judiciaires. Enfin, c'était hier les 40e victoires de la musique en France, un anniversaire bien fêté par le jeune chanteur français Pierre Garnier, doublement sacré. Sans soutien des États-Unis, peu de chances de survivre. Volodymyr Zelensky, fataliste chez nos confrères américains de la chaîne NBC, après sa rencontre à Munich avec le vice-président américain J.D. Vance. Ce dernier a assuré au président ukrainien que les États-Unis cherchaient une paix durable en Ukraine. Rencontre très attendue après l'onde de choc provoquée par la conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky, qui a par ailleurs assuré hier en Allemagne que la situation s'améliorait sur le front de la guerre, notamment sur le front Est, autour de la ville minière de Pokrovsk, dans la région de Donetsk, un point clé pour le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Cette bonne tenue de l'armée ukrainienne est due à une baisse de régime côté russe.
De la même façon qu'à Pokrovsk, il n'y a pas beaucoup de progression. Il faut se rappeler simplement que aujourd'hui, les pertes russes sont deux fois plus importantes que les pertes ukrainiennes. Hein, on parle de 600 pour les uns et 1200 pour les autres, quotidiennement. Donc, à ce rythme-là, la Russie ne peut pas tenir trop longtemps une offensive, sauf à éroder complètement sa capacité offensive. Donc, globalement, les Ukrainiens tiennent bien sur leur ligne. Alors, il n'en reste pas moins que et ils sont incapables de reprendre le terrain, mais ils empêchent les Russes de progresser beaucoup plus. Les lignes, pour l'instant, sont plutôt figées. Il y a eu deux contre-attaques dans la région de Koursk, donc en territoire russe, mais qui n'ont pas donné grand-chose. Du côté russe, les avancées sont vraiment très minimes.
Des propos recueillis par Lila Olkinouara. La conférence de Munich également marquée par la sortie de J.D. Vance, qui a fait la leçon aux Européens sur la démocratie et sur la liberté d'expression devant une assemblée sidérée, comparant certaines zones de l'Europe à des régimes autoritaires, déclaration creusant encore un peu plus le fossé entre Washington et ses alliés du vieux continent, notamment l'Allemagne. Écoutez le ministre de la Défense allemande, Boris Pistorius.
La démocratie a été remise en question tout à l'heure par le vice-président américain pour toute l'Europe. Il parle d'annihilation de la démocratie. Et si je l'ai bien compris, il compare les conditions dans certaines parties de l'Europe à celles qui prévalent dans les régimes autoritaires. Mesdames et messieurs, ce n'est pas acceptable.
Le ministre de la Défense allemande Boris Pistorius, J.D. Vance, qui a par ailleurs rencontré en Bavière Alice Weidel, patronne du parti d'extrême droite AfD, à 8 jours des élections fédérales en Allemagne. Autre sommet diplomatique d'envergure, celui des chefs d'État de l'Union africaine qui s'ouvre aujourd'hui en Éthiopie, à Addis Abeba. Le président congolais Félix Tshisekedi n'en sera pas rentré en urgence de Munich à Kinshasa, alors que dans l'est de la RDC, le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé de l'aéroport de Kavumu, non loin de Bukavu. Le M23 également aperçu dans la soirée à Bukavu, selon une source gouvernementale jointe par RFI. La situation dans l'est de la RDC, qui était hier au menu des discussions de la réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Discussion aussi sur le Soudan, l'UA accusé de ne pas avoir su mobiliser, notamment le président de la commission, Moussa Faki Mahamat, qui défendait hier son engagement sur ce dossier. Il a pointé du doigt l'échec moral de notre époque et exhorté les chefs d'État à rester unis pour exiger un cessez-le-feu et éviter davantage d'interférences étrangères.
Il ne sert à rien de se ranger dans tel ou tel camp des belligérants. Si nous voulons réellement aider le peuple soudanais, nous devons conjuguer nos efforts au sein de l'Afrique et avec nos amis dans le monde afin de parvenir dans les meilleurs délais à un cessez-le-feu. La mobilisation doit se renforcer pour l'aide et l'assistance humanitaire aux millions de personnes en détresse dans toutes les régions du Soudan. Cette conjugaison sans faille des efforts et cette mobilisation sont un impératif non seulement pour exprimer notre solidarité au peuple frère du Soudan, mais aussi pour arrêter les interférences étrangères dans ses affaires intérieures qui se livrent à travers une guerre par procuration pour assouvir leurs appétits d'influence et de contrôle des territoires d'autrui.
Des propos recueillis à Addis Abeba par notre envoyé spécial Florence Maurice. Au Liban, la FINUL demande une enquête immédiate. La force de l'ONU dans le pays qui dénonce un possible crime de guerre après l'incendie d'un de ses véhicules. Un convoi attaqué à Beyrouth, un officier a été blessé. Attaque fermement condamnée par les autorités libanaises. Des dizaines de partisans du Hezbollah qui avaient bloqué pour le deuxième soir de suite la route menant à l'aéroport international de la capitale libanaise. Et puis toujours au Proche-Orient, place ce samedi au sixième échange entre le Hamas et Israël. Trois otages israéliens vont être libérés par le mouvement islamiste palestinien. Trois hommes binationaux captifs dans la bande de Gaza depuis 16 mois en échange de 369 prisonniers palestiniens. Et puis le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui est lui attendu dans la soirée en Israël. Il doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou ce dimanche. RFI 5h06 à Paris, 23h06 à New York. Le verre est dans le fruit, dans la grosse pomme. Crise politique et judiciaire. Le maire démocrate de la ville, Eric Adams, est en pleine tourmente, accusé de corruption. Eric Adams, qui se rapproche ostensiblement de l'administration Trump. Un rapprochement teinté d'opportunisme pour tenter d'échapper aux poursuites judiciaires. RFI Washington, Guillaume Nodin.
L'image est étonnante. Sur le plateau de la chaîne d'information conservatrice Fox News, Eric Adams, maire d'une ville dite sanctuaire pour les immigrants, est tout sourire aux côtés de Tom Homan, le garde-frontière en chef nommé par Donald Trump. Et le maire promet de collaborer avec le responsable républicain pour faciliter son programme d'expulsion massive des immigrants illégaux, qui seraient au moins 200 000 à New York. Si Eric Adams est en train de tourner kazakh, c'est qu'il cherche manifestement des garanties sur l'abandon des poursuites contre lui dans une affaire de corruption retentissante impliquant notamment la Turquie. Sauf que cela ne se passe pas exactement tranquillement. Le numéro 2 du ministère de la Justice, Emil Bovee, ancien avocat de Donald Trump, a demandé à ses services d'abandonner ses poursuites, mais la procureure fédérale par intérim de Manhattan, Danielle Sassoon, pourtant une républicaine convaincue, a refusé de s'exécuter. Au lieu de ça, elle a démissionné en envoyant une lettre de 8 pages où elle explique que la demande n'a rien à voir avec la solidité du dossier. Son adjoint a suivi, ainsi que 5 autres procureurs à New York et à Washington, ce qui rappelle un peu des démissions en cascade au moment de l'affaire du Watergate en 1973. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
En Argentine, la justice qui s'attaque aux dirigeants birmans et qui ordonne l'arrestation de l'actuel chef de la junte en Birmanie, aussi celle de la prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, et d'une vingtaine d'anciens responsables militaires et civils. Arrestation pour génocide et crime contre l'humanité, contre la communauté Rohingya. Une décision historique pour la minorité musulmane de ce pays d'Asie du Sud-Est. Oriane Verdier.
C'est une lueur d'espoir pour les Rohingyas qui ont vu pendant des décennies leur famille et leur culture être détruites en toute impunité. Déclaration hier de l'association à l'origine de l'enquête Burmese Rohingya Organization UK avait déposé une plainte en 2019. De confession musulmane dans un pays à majorité bouddhiste, les Rohingyas sont considérés par l'État birman comme des migrants illégaux venant du Bangladesh voisin. En 2021, la justice argentine a décidé d'ouvrir une enquête au titre de la compétence universelle, un principe qui permet de poursuivre les auteurs présumés des crimes les plus graves, quelle que soit leur nationalité et l'endroit où les faits ont été commis. Les témoignages se sont succédés de personnes en Argentine, mais aussi depuis un camp de réfugiés au Bangladesh. La juge argentine estime qu'un mandat d'arrêt international devrait être ordonné, y compris contre la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, dirigeante de facto de la Birmanie entre 2016 et 2021. En novembre dernier, le procureur de la Cour pénale internationale avait demandé l'émission d'un mandat d'arrêt contre le chef de la junte birmane pour crimes présumés contre l'humanité, contre la minorité Rohingya. Il n'a pour l'instant pas été émis.
Oriane Verdier, et sans transition, on termine en France avec le triomphe de Pierre Garnier, gagnant l'an dernier de la Star Academy, célèbre télécrochet dans l'Hexagone. Pierre Garnier consacré hier par 2 victoires de la musique, grand-messe de la chanson française. Zao Tsagazan, Gims ou encore Santa ont aussi passé une excellente soirée à l'occasion des 40 ans de l'événement. Olivier Roger.
Quoi de mieux que d'inviter Philippe Catherine pour fêter ses 40 ans. Bien que reparti bredouille, l'ambianceur en titre de la chanson française a tenu à participer joyeusement à la fête. Une fête qui a consacré celle qui triomphait déjà l'an dernier, Zao de Sagazan, meilleure artiste féminine. Son homologue masculin Gims a eu un mot pour le pays de ses parents et de son cœur, le Congo.
C'est juste un message humain, parce que c'est inhumain justement ce qui se passe là-bas, et voilà, j'aimerais qu'on y pense quelques minutes, c'est tout.
Le meilleur album de l'année revient à Santa pour Recommence-moi et sa pop énergique.
Je la voulais celle-ci, je la voulais.
Côté révélation, Solane remporte la victoire chez les femmes et Pierre Garnier chez les hommes. Pierre Garnier a aussi eu les faveurs du public qui votait pour la chanson originale. La série documentaire sur le génial DJ Mehdi a été sacrée création audiovisuelle de l'année, tandis que les cérémonies des Jeux Olympiques ont reçu la victoire du concert de l'année. Son initiateur Thomas Joly en a profité pour faire passer un message.
Je m'étonne, dans cette période de tourments multiples, de voir ici ou là les moyens pour la culture affaiblis ou tout bonnement retirés.
La petite musique des Jeux Olympiques, voilà qui nous rappelle des bons souvenirs. Il est 5h11 bientôt, ici à Paris. Faites vos jeux, l'info continue sur RFI.
RFI, toute l'actualité.
Martin Guez.
Et à suivre dans le prochain quart d'heure, le tour du monde de l'actualité francophone. Le Canada, la Suisse, la Belgique, la France, mais aussi le Sénégal, à l'honneur ce matin dans l'accent des autres d'Olivier Nederland. Et puis on parlera d'amour avec Corinne Manjou et avec une coach en relation amoureuse, mais aussi deux sœurs jumelles qui ont créé une application de rencontre dédiée aux expatriés. Ce sera au menu de Vivre Ailleurs. Mais tout de suite, on retrouve nos partenaires des médias francophones publics. Et place à votre tour d'horizon du monde francophone, les droits de douane au Canada, les ennuis du Premier ministre français François Bayrou, ou encore la mauvaise gestion des comptes publics au Sénégal au temps de Macky Sall. Menu varié ce matin pour Olivier Nederland et l'accent des autres.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Bienvenue, voici l'actualité de la semaine vue par les partenaires des médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, ici et enfin la RTBF. Avec aujourd'hui encore les suites de la récente investiture de Donald Trump, la Suisse est notamment touchée, des ONG sont privées de financement américain. Pierre Anchoffal, le canton de Genève entend voler à leur secours.
Les ONG qui gravitent autour de la Genève internationale représentent 3500 emplois directs. Alors que les premiers licenciements collectifs sont annoncés, l'État de Genève est prêt à soutenir provisoirement les emplois menacés.
On notera aussi cette semaine cette nouvelle salve tarifaire de Donald Trump. Il impose des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium dès le 12 mars pour tous les pays et notamment son voisin canadien, Nadi Mubarak.
Oui, et ce malgré un sursis accordé au Canada la semaine dernière. Le Premier ministre Justin Trudeau promet une réponse claire et ferme.
François Bayrou empêtré dans le scandale de Betaram, des violences sexuelles dénoncées au sein d'un établissement scolaire des Pyrénées-Atlantiques depuis de longues années. Le Premier ministre français et ancien ministre de l'Éducation affirme qu'il n'en savait rien. L'affaire judiciaire s'est muée en affaire politique. En Belgique, beaucoup de monde dans les rues de Bruxelles ce jeudi. Sabine Brulé, 60 000 manifestants réunis pour dénoncer les mesures du nouveau gouvernement fédéral.
Oui, 60 000 manifestants selon la police, mais 100 000 selon les syndicats qui avaient organisé cette mobilisation pour la défense des pensions et des services publics, notamment. Le mouvement aura provoqué pas mal de perturbations dans les transports en commun, notamment.
Enfin, au Sénégal, la Cour des comptes a rendu son rapport définitif sur la gestion des finances publiques sous l'ancien président Macky Sall. Et Nicolas Sûr, il est très sévère.
Oui, elle pointe une série de manquements et surtout une dette colossale. Le nouveau pouvoir annonce des enquêtes. L'équipe sortante dénonce une machination.
Le régime minceur imposé par la nouvelle administration américaine a donc des répercussions immédiates en Suisse, Pierre-Anne, et plus précisément au sein de la Genève internationale.
Oui, c'est le gel pour 90 jours du programme USAID qui impacte directement les organisations internationales et les ONG actives dans l'humanitaire. Il faut dire que tout ce secteur est très dépendant des financements américains. Et si les organisations non gouvernementales ont l'habitude de s'adapter à la variation des aides financières, la fermeture brutale du robinet les met dans une situation plus que périlleuse. Certaines ont déjà annoncé cette semaine des licenciements collectifs à l'Office genevois de l'emploi.
Alors la Genève internationale est évidemment un atout pour la Suisse. Les ONG peuvent-elles espérer de ce côté-là ?
La réponse est clairement non pour la ministre des Finances, Karine Keller-Souter.
Je crois que c'est pas le rôle de la Suisse de maintenant combler les lacunes qui seront créées ou qui sont
peut être créé par les États-Unis, c'est même pas possible. Aussi, le Parlement a coupé quand même dans l'international.
Le Parlement suisse qui a en effet biffé 100 millions de francs dans l'aide au développement pour cette année. Mais les ONG qui gravitent autour de la Genève internationale, ce sont tout de même 3500 emplois directs et des retombées économiques en milliards chaque année. Sans vouloir pallier le défaut des pays donateurs, le canton veut donc leur venir en aide en garantissant les salaires pendant les 3 mois du gel de l'aide américaine. Une mesure nécessaire pour ses employés, selon la ministre genevoise en charge de l'économie, Delphine Bachmann.
Je les préfère en emploi, en train de travailler, à la recherche de fonds complémentaires, à leur donner cet espace en fait de stabilité 3 mois encore pour essayer de savoir où on va aller. Vous savez, on est dans une situation d'urgence et je pense que c'est aussi notre rôle que de savoir prendre des mesures certes pas parfaites, mais qui permettent de pallier l'urgence de la situation.
Une mesure transitoire donc, chiffrée à 10 millions de francs pour permettre aux ONG de se retourner et peut-être aux États-Unis de reprendre leur financement au moins partiellement.
Les États-Unis qui sont par ailleurs passés de la parole aux actes lundi dernier. Donald Trump a signé un décret qui impose des droits de douane de 25% sur toutes les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Ça concerne tout le monde, sans exception, dès le 12 mars, Nadi.
Oui, et ce développement est survenu exactement une semaine après le sursis d'un mois accordé par Washington à Ottawa sur des tarifs de 25% déjà imposés sur tous les produits provenant du Canada pour l'inciter à mieux lutter contre le flux de migrants clandestins et le trafic de fentanyl à sa frontière. Autrement dit, dès le 12 mars, l'aluminium et l'acier canadien pourraient être touchés non pas par des droits de douane de 25%, mais carrément de 50%. Fait à noter, le Canada représente le principal fournisseur d'acier et d'aluminium des États-Unis.
Alors, comment réagit le gouvernement canadien?
Eh bien, le Premier ministre Justin Trudeau reconnaît que ces menaces de tarifs suscitent énormément d'inquiétudes pour les Canadiens. Il affirme du même coup que le travail continue, notamment en coulisses, pour faire comprendre à l'administration Trump que les États-Unis vont aussi subir les conséquences de telles mesures.
On va répondre de façon équivalente et forte.
De son côté, le ministre fédéral des Finances, Dominique Leblanc, a rencontré mercredi le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick.
On a partagé nos inquiétudes quant à la question des tarifs douaniers sur le secteur d'aluminium et de l'acier. Et on a conclu avec l'idée qu'on allait maintenir le contact dans les prochains jours.
Les deux hommes se sont entretenus en personne à Washington.
Et le ministre Leblanc qu'on vient d'entendre n'était pas le seul homme politique canadien présent dans la capitale américaine cette semaine, Nadi.
Effectivement, 11 des 13 premiers ministres des provinces et des territoires ont passé plus d'une heure à la Maison-Blanche mercredi pour discuter avec 2 proches conseillers de Donald Trump. Un rendez-vous imprévu qui a bousculé le programme du Conseil de la Fédération, qui était en mission à Washington pour tenter d'éviter au Canada l'imposition de tarifs américains sur ses exportations. Selon le premier ministre du Québec, François Legault, la menace tarifaire est toujours bien réelle. À son avis, le Québec devra s'adapter à une nouvelle réalité.
L'économie du Québec ne sera plus jamais comme on l'a connue, comme on la connaît actuellement. Donc, il va falloir être capable de se diversifier.
Le premier ministre Legault demande une renégociation rapide de l'entente de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique et s'attend à retourner à Washington prochainement.
L'accent des autres.
François Bayrou, empêtré dans cette affaire d'abus sexuels à Notre-Dame de Bétarame, c'est près de Pau dans le sud-ouest, et c'est l'une des informations de la semaine en France. Le maire de Pau et Premier ministre, qui a aussi été dans le passé ministre de l'Éducation nationale, est pointé du doigt pour avoir gardé le silence sur ces affaires en connaissance de cause. Des accusations formulées par le journal en ligne Mediapart. Il y a eu des dépôts de plainte, plus d'une centaine, et cette affaire judiciaire est devenue forcément une affaire politique. Elle a migré vers les bancs de l'Assemblée nationale, Flore Catala.
L'Assemblée où François Bayrou n'est plus seulement soupçonné d'avoir gardé le silence, mais où il est désormais accusé d'avoir menti. C'est le député LFI Paul Vanier qui a pris à partie le Premier ministre. Et François Bayrou a démenti. J'affirme que jamais je n'ai eu la moindre information, persiste le Béarnais, qui pour se défendre argue à chaque fois que s'il avait su, il n'aurait tout simplement pas scolarisé ses enfants à Bétarame. Les socialistes se sont eux aussi emparés du sujet. 3 députés PS des Pyrénées-Atlantiques ont écrit un courrier à François Bayrou pour lui demander de dire la vérité, alors que les insoumis, eux, appellent à nouveau à sa démission.
Flore Catala pour Ici Béarn Bigorre. Alors une manifestation s'est par ailleurs tenue cette semaine devant l'établissement concerné et Marion Aquilina y était.
Bétaram, même Bayrou savait. C'est ce qu'on peut lire sur les pancartes préparées par les manifestants comme Suzanne qui réclame la fermeture de l'établissement scolaire.
Bah là on vient de faire un collage contre le mur du collège. 50 ans de déni, 112 plaintes pour des violences contre les enfants.
Fermez Bétaram ! Soutien aux victimes !
Soutien aux victimes !
Derrière le mégaphone, c'est Arnaud Gallet, le cofondateur de Move Enfants, à l'initiative de cette manifestation. Juste après son discours, il a été interpellé par des élèves de Bétaram.
L'établissement, il est sous contrat non pas avec le bon Dieu, mais avec l'éducation nationale, ça c'est la première chose. Et que l'éducation nationale ne réagisse pas, c'est inacceptable. Comment se fait-il que quand il y a 112 plaintes, donc de personnes qui étaient enfants...
Elles sont dans les mains de la justice maintenant. Donc c'est le procureur qu'il faut aller voir.
Ouais, mais sauf
ah, pourquoi vous n'allez pas manifester devant chez lui ?
On vient juste coller des lettres, on est là aussi pour que ça éveille la discussion et la preuve c'est bien que vous réagissez, etc. Mais en réalité on fait pas grand chose.
Ça c'est l'image qu'ils ont eue à l'ancienne, de nos jours c'est plus pareil, faut pas rester... Ok il y a eu des trucs, c'est peut-être pas pardonnable mais faut arrêter avec cette image-là, on est depuis la 6e, tout s'est bien passé, faut... voilà quoi.
Ces enfants subissent une polémique qui n'est pas la leur, c'est agacé un parent d'élève qui souhaite rappeler qu'aujourd'hui la direction de l'établissement a changé.
Marion Aquilina pour Ici Béarn Bigorre. Cette importante mobilisation à présent, jeudi dernier à Bruxelles, pour dénoncer les mesures prises par le nouveau gouvernement fédéral belge. Sabine, une manifestation était organisée à l'appel des syndicats.
60 000 personnes ont défilé, selon la police, 100 000 d'après les syndicats. Une mobilisation importante pour s'opposer au gouvernement qui veut notamment supprimer les régimes spéciaux de pension. Aujourd'hui, les militaires ou les cheminots peuvent partir plus tôt à la retraite. À l'avenir, ce ne sera plus le cas. Pour le patron du syndicat socialiste, tout est cadenassé et ce sera 67 ans pour tout le monde.
Quand on regarde et qu'on additionne toutes les mesures qui sont dans l'accord de gouvernement, il n'y a plus moyen de partir avant 67 ans. Vous ne pouvez pas demander à un policier, à une infirmière, à quelqu'un qui court derrière le camion poubelle à 30 ou 40 ans de le faire jusqu'à 67 ans. Et je vous assure, il n'y a plus aucune solution d'arrêter avant 67 ans.
Mobilisation sur le thème des pensions, mobilisation aussi pour défendre le pouvoir d'achat et pour défendre aussi les services publics malmenés, comme le souligne la responsable du syndicat chrétien.
Il y a une forme de mépris pour les travailleurs des services publics, comme s'ils étaient ceux qui coûtent et pas ceux qui tiennent la société debout. Il y a un écart grandissant entre une vision un peu théorique du monde du travail et les conditions réelles, effectives, quotidiennes de travail aujourd'hui.
Cette manifestation n'aura été qu'un premier avertissement. Les syndicats annoncent un long bras de fer avec le gouvernement. Ils promettent un marathon social. Une grève générale est déjà annoncée pour le 31 mars prochain.
Enfin, les finances publiques du Sénégal sont dans une situation alarmante. C'est la principale conclusion du rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion de l'argent public entre 2019 et mars 2024. C'est en fait la période qui couvre le deuxième mandat de l'ancien président Macky Sall. Le document était très attendu et Nicolas, il révèle de nombreux manquements et d'abord un endettement record.
Plus de 18 000 milliards de francs CFA de dette, soit 99,67% du PIB. C'est largement supérieur à ce qu'avait déclaré le régime sortant, supérieur aussi aux prévisions déjà alarmantes du Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait accusé ses prédécesseurs de mentir sur les chiffres. Conséquence, des dettes colossales à rembourser et une marge de manœuvre quasi inexistante pour mettre en œuvre le programme de développement promis par le nouveau pouvoir.
Oui, et cette photographie des finances publiques sur les 5 dernières années révèle aussi d'autres manquements en matière de gestion des finances publiques.
Oui, des dépenses autorisées en dehors du circuit du trésor public avec la création de comptes spéciaux, mais aussi des ressources extérieures qui n'étaient pas inscrites dans la loi des finances, des transactions nébuleuses. Le ministre de la Justice annonce l'ouverture d'enquêtes sur de possibles délits financiers. Du côté des partisans de l'ancien président Macky Sall, l'ex-ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, dénonce une machination et un contre-feu du gouvernement qui ne pourrait pas tenir ses promesses de rupture. Un autre s'interroge. Qu'a donc fait la Cour des comptes à l'époque, pendant la période sur laquelle elle est aujourd'hui si sévère?
Nicolas Sûr et RFI pour refermer l'accent des autres. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve, si vous le souhaitez, la semaine prochaine, au même moment, pour un nouveau numéro en compagnie des médias francophones publics. Excellente fin de semaine.
Et bon week-end à vous aussi, Olivier Nederland. Et à la semaine prochaine donc pour un nouveau numéro de L'Accent des Autres.
Vivre ailleurs.
Et en ce lendemain de Saint-Valentin, Corinne Manjou nous parle d'amour. Comment le trouver? Comment le garder? Pas facile d'être amoureux en étant expatrié, parfois à cause de la distance, parfois compte tenu des différences culturelles. Un sentiment amoureux mis à rude épreuve. Mais vous allez l'entendre, il existe des petites solutions, des petits conseils et même des coachs en la matière. Vivre ailleurs avec Corinne Manjou.
J'accompagne beaucoup de Français dans la gestion de leurs relations amoureuses.
Établie à Londres depuis 20 ans, Audrey Zeytoun est coach en relations amoureuses pour expatriés.
Et c'est vrai qu'on fait appel à moi parce que ce service n'existe pas en fait en français, dans la langue où on aimerait parler dans ces cas-là. Et donc j'ai beaucoup de demandes, un accompagnement en coaching relationnel. Et donc là j'accompagne voilà, des gens qui veulent se métamorphoser, se transformer, changer de vie. Quand on est expatrié, on suit son conjoint, sa conjointe, et c'est le moment de repenser à sa vie. Et c'est là où on se pose beaucoup de questions qu'on ne se posait peut-être pas quand on était en France. Ça commence un peu comme ça le coaching, on explore des pistes et puis voilà, les moments arrivent, puis on y travaille.
Et comment êtes-vous arrivée à faire du coaching en relation amoureuse, Audrey Zeytoun?
Alors en fait, la gestion de l'humain, ça a toujours été un petit peu ma passion. Et mes enfants étant plus grands, j'ai eu envie de me lancer à mon compte et de me demander voilà, qu'est-ce qui manque aux Français qui sont à l'étranger, en quoi je pourrais aider. Je sais que le coaching est moins développé en France qu'en Angleterre ou qu'aux États-Unis, mais quand même, on s'y intéresse. Et donc, j'ai fait une formation en coaching de relations amoureuses. Donc, une formation très, très, très poussée. Ça m'a bien aidé pour comprendre la dynamique dans les gens, dans l'amitié, dans le couple, enfin les conflits qu'on peut avoir. Et c'est comme ça que je me suis mise à mon compte et j'ai commencé à développer mon activité.
Alexandra et Emmanuelle Soulé sont deux sœurs jumelles qui ont toujours vécu en expatriation. Revenues en France pendant la pandémie, elles s'installent aux Antilles et lancent Love Expat.
Bonjour, alors je suis Emmanuelle Soulé. Nous avons, avec ma sœur jumelle, cofondé Love Expat. Donc Love Expat, c'est la première et l'unique application de rencontre pour les Français à l'étranger.
Pourquoi cette application? Qu'est-ce qui vous a motivé pour créer Love Expat, Alexandra Soulet?
Nous sommes expatriés depuis la naissance. Nous avons donc parcouru un petit peu le monde avec nos parents, avec nos familles qu'on a fondées en expatriation. À la suite de ça, nous nous sommes retrouvés divorcés l'une après l'autre et avons dû rentrer en France pour cause du Covid. Nous avons choisi de nous établir en Guadeloupe. C'est ainsi que nous avons commencé à vouloir rencontrer de nouveau l'amour et nous avions rencontré des personnes qui ne correspondaient pas forcément à notre mode de vie. Parce qu'il faut le dire, l'expatriation, c'est quand même un certain mode de vie. Nous avons décidé qu'il fallait créer cette application de rencontre et la mettre à la portée des expatriés. Rencontrer quelqu'un qui connaît cette façon de vivre, c'est quand même un plus.
Comment cette application fonctionne, Emmanuelle Soulet?
Alors, Love Expat est une application de rencontre dite par affinité. Donc, on a établi un questionnaire d'une cinquantaine de questions à peu près et qui donc regroupe tous les traits de personnalité pour découvrir la personne sur son caractère, ses envies, ses désirs, etc. dans la rencontre. Et puis aussi une deuxième partie de questions qui sont plus à trait au mode de vie de l'expatriation directement. Donc, on a récolté toutes ces données et puis donc l'algorithme va établir un pourcentage de compatibilité entre les personnes.
Audrey Zeytoun, à Londres, vous aussi, vous avez surtout une clientèle d'expatriés.
Essentiellement expatriés, même si j'ai quand même des personnes qui sont en France et qui me font appel à mes services. Mais comme je vous ai dit, ça n'existe pas. Il y a peu de personnes qui font cet accompagnement en France et puis qui a cette ouverture en fait sur le monde parce que certaines personnes sont en France mais ont été expatriées dans le passé. Et donc, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui comprenne aussi toutes ces questions ou qui sont mariés à quelqu'un d'une nationalité différente. Et c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes problématiques que si on est français en France, en fait, un couple français.
Pour en savoir plus, allez sur les sites loveexpat.com, loveexpat tout collé avec un seul E au milieu.com et audreyzcoaching.com pour la coach à Londres.
Et merci Corinne Manjou, c'était Vivre ailleurs sur RFI, c'est la fin de cette demi-heure d'info. Benoît Vandenbroek à la réalisation, Grégory Lesca à la rédaction en chef. Dans quelques secondes, le retour de l'info africaine sur RFI.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Turki Adada nous a reçus chez elle à Nouakchott dans sa maison remplie de souvenirs. Nationaliste algérienne, proche de Germaine Tillion qui la sauve de la torture, elle devient mauritanienne par amour. Tout commence par une immense épreuve, la mort de son père tué par les Français lorsqu'elle était enfant.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI.
Géopolitique.
Les matières premières jouent toujours un rôle clé dans les dynamiques et relations entre États.
un nouveau siècle minier s'ouvre et face aux besoins colossaux de la transition énergétique et numérique, la course aux métaux est lancée. Alors que la Chine domine le marché mondial et que l'Afrique détient un tiers des réserves, où trouver les ressources pour notre avenir? Éléments de réponse avec les invités de Marie-France Chatin dans Géopolitique, tout à l'heure à 18h40 TU.
RFI.